VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mercredi 14 novembre 2018, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Gabon, un parti d'opposition a dénoncé un mensonge d'État après des déclarations de la présidence sur l'état de santé d'Ali Bongo.
Au Tchad, des combats violents ont été signalés dans une zone aurifère du Tibesti.
En République démocratique du Congo, la volte-face de ténor de l'opposition au sujet du candidat unique continue de retenir l'attention. Un dossier à ce sujet en seconde partie de cette édition.
Le Hamas annonce un cessez-le-feu avec Israël après une grave confrontation à Gaza.
Ici aux États-Unis, les gigantesques feux de forêt en Californie ont fait maintenant au moins 50 morts.
États-Unis toujours, hausse de 17% des crimes racistes, antisémites ou homophobes en 2017.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Gabon, un des principaux partis d'opposition, l'Union nationale, a dénoncé hier ce qu'il a appelé un mensonge d'État, après une déclaration de la présidence à Libreville sur l'état de santé du chef de l'État. Ali Bongo Ondimba est hospitalisé depuis près de 3 semaines à Riyad, en Arabie Saoudite, et dimanche, le porte-parole de la présidence a dit que M. Bongo était, je cite, « en phase de recouvrement de la plénitude de ses facultés physiques ». Fin de citation. Réaction de citoyens gabonais recueillis à Libreville.
Je reste sceptique à ce niveau, je reste sceptique, mais confiant, parce que je ne suis pas pour la mort du président de la République. Je suis bien pour que, effectivement, il puisse se rétablir, puisqu'on ne peut pas souhaiter la mort de quelqu'un. Mais en tant que Gabonais, en tant que leader d'opinion, j'ai des interrogations.
Maintenant, Gabonais, nous voulons savoir, c'est une personne comme nous. On n'a pas dit que c'est un robot ou une super homme, mais on doit quand même savoir l'état de santé, parce que nous sommes dans l'hypothèse. On nous dit, mais nous n'avons pas de preuves. Qu'est-ce qui se passe dans ce voyage? Qu'est-ce qu'on craint?
Mon point de vue, c'est les spéculations qu'on nous donne. Donc ces spéculations, je ne me fie pas à ça. Je veux me fier au jour où on me dit, bon voilà, il y a un porte-parole qui est arrivé. La première fois, il est arrivé, il nous a dit, voilà, ça va. Et après, on a vu un peu la santé de feu Omar Bongo Ondimba. C'était une tuile où on nous a caché. Après, on a découvert qu'il était mort. Donc pourquoi on ne nous cache? Qu'on nous dise exactement que ça la santé s'est améliorée ou ça ne s'est pas amélioré. Il y a un gouvernement et il y a la communication, on communique.
Au Tchad, des combats violents opposent l'armée à un comité dit d'autodéfense des habitants du massif du Tibesti dans le nord, théâtre d'affrontements de plus en plus fréquents depuis fin août. Nanit Talani fait le point.
L'armée tchadienne a bombardé hier et lundi la zone aurifère de Miski dans le nord du pays, selon une source militaire tchadienne. Les affrontements se déroulent à l'intérieur et à l'entrée de Miski, où les militaires s'affrontent à un comité d'autodéfense créé début novembre par des habitants de la région excédés par les exactions de l'armée. 2 hélicoptères et 2 avions de combat ont été déployés dans la zone. Aucun bilan n'a été communiqué de sources officielles, mais il y aurait plusieurs morts dans les 2 camps. Le comité d'autodéfense proteste contre l'opération punitive de l'armée tchadienne dans la zone, selon M. Mouli Sougui, ex-sous-préfet de Yébibou. Il soutient que le comité n'exclut pas la possibilité d'une alliance avec des rebelles tchadiens passés en Libye qui ont progressé dans le nord depuis août. Ni le gouvernement, ni l'armée ne se sont exprimés officiellement sur ces affrontements dans le Tibesti. Le président Idriss Déby Itno a annulé un voyage en Italie où il devait participer à une rencontre sur la crise libyenne.
Cette conférence internationale sur la Libye, qui s'est tenue lundi et mardi en Sicile, a été plombée avant même son ouverture par les divisions entre Libyens d'une part et entre pays impliqués de l'autre. Les précisions d'Irénée Herman Ungbo.
Boycott du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est de la Libye, coup de colère de la Turquie qui a claqué la porte de la conférence, rien n'aura été épargné au nouveau gouvernement italien soucieux pourtant de réussir ce rendez-vous de Palerme, son premier grand défi diplomatique. Au terme des travaux, le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a indiqué que le processus de stabilisation de la Libye devait être totalement laissé aux Libyens. Même son de cloche du côté de l'émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, qui a pour sa part noté en plus une grande convivialité au sein des participants libyens, même si le maréchal Haftar est reparti avant la séance plénière. Il avait maintenu le suspense sur sa participation, jugeant selon son entourage que certains participants étaient trop proches des islamistes. La Turquie, qui était exclue de la réunion informelle, a alors choisi de quitter la salle, se disant profondément déçue. Toute réunion qui exclut la Turquie ne peut être que contre-productive, a déclaré le vice-président turc Fuat Oktay. Enfin, Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, a lui aussi quitté la Sicile hier sans faire de déclaration.
Le Conseil de sécurité de l'ONU votera aujourd'hui la levée des sanctions contre l'Érythrée, et ce après un accord de paix historique avec l'Éthiopie et un réchauffement des relations d'Asmara avec Djibouti, qui laisse augurer des changements positifs dans la corne de l'Afrique. L'Érythrée est depuis 2009 sous le coup de sanctions pour son soutien présumé aux djihadistes en Somalie, une accusation que le gouvernement érythréen a toujours niée. Selon le projet de résolution du Conseil de sécurité, les observateurs de l'ONU n'ont pas trouvé de preuves formelles que l'Érythrée soutienne les Chebabs somaliens.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, plusieurs milliers de pompiers luttent depuis une semaine contre de gigantesques feux de forêt en Californie. Des équipes de recherche tentent de retrouver les corps d'éventuelles victimes des incendies qui ont déjà fait au moins 50 morts après la découverte hier des restes de 6 autres personnes à Paradise. Le point avec Jean-Roger Bion.
Dans le nord de la Californie, le feu baptisé Campfire a brûlé plus de 50 000 hectares. Au moins 6 500 habitations et 260 commerces ont été détruits depuis que l'incendie s'est déclaré jeudi dernier. La ville de Paradise est rayée de la carte, laissant des paysages de désolation au milieu des bâtiments et véhicules calcinés. Plus de 5 100 pompiers venus de tout le pays sont déployés, mais les sols secs combinés à un terrain difficile d'accès compliquent la tâche de ces soldats du feu. À plusieurs centaines de kilomètres au sud, un autre feu surnommé le Woosley Fire a ravagé près de 39 000 hectares près de Los Angeles. L'incendie s'est déclaré jeudi près de Thousand Oaks, la petite ville déjà meurtrie la veille par une fusillade dans un bar qui avait fait 12 morts. Là encore, près de 3 600 pompiers combattent les flammes qui ont ravagé les maisons de certaines célébrités. Plus de 250 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer dans une vaste région près de Sacramento, Malibu et ses environs. Depuis un an, la Californie a connu plusieurs incendies qui ont fait près de 100 morts et des centaines de milliers d'hectares sont partis en fumée.
États-Unis toujours, hausse de 17% des crimes racistes, antisémites et homophobes. Selon des statistiques du FBI, la police fédérale, ces chiffres ont été enregistrés en 2017, la première année de présidence de Donald Trump. Eric Manirakiza.
Dans son rapport annuel sur ces crimes dits haineux, la police fédérale américaine a enregistré 7175 attaques basées sur la couleur, l'origine, la religion, la sexualité, le genre, le handicap. Il s'agit du chiffre le plus élevé depuis 2008 et pour la troisième année consécutive, cette hausse concerne toutes les catégories. Les Afro-Américains sont les premières victimes avec plus de 2000 incidents. L'orientation sexuelle est en cause pour 1130 plaintes et 938 attaques ont visé des Juifs en hausse de 37% selon le FBI. La publication de ces données intervient un peu plus de 2 semaines après la pire attaque antisémite de l'histoire des États-Unis qui a ôté la vie de 12 fidèles dans une synagogue de Pittsburgh dans le nord-est des États-Unis. Le ministre de la Justice par intérim Matthew Whitaker s'est dit particulièrement troublé par la hausse de l'antisémitisme, précisant que ce rapport est un appel à agir.
Le mouvement islamiste Hamas et les groupes armés palestiniens ont annoncé hier un cessez-le-feu avec Israël, conclu indirectement sur intercession égyptienne après la plus sévère confrontation entre les deux camps depuis la guerre de 2014. De son côté, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni à huis clos pour discuter de la situation à Gaza, mais aucun accord n'a été trouvé quant aux moyens de régler la situation, ont indiqué des diplomates. La bande de Gaza était calme en soirée et les écoles fermées en journée. Et il devait rouvrir mercredi matin, selon un journaliste de l'AFP.
Le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, continue d'accentuer la pression sur Riyad après la mort du journaliste saoudien Jamal Khashoggi le mois dernier au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Hier, le journal pro-gouvernemental turc Sabah a publié à la une des images du scanner des bagages passés au rayon X de l'équipe de tueurs saoudiens dépêchés en Turquie, des images montrant des objets utilisés pour tuer Khashoggi. Et la semaine dernière, le président Erdogan avait annoncé avoir partagé avec les États-Unis, l'Arabie saoudite et les principales puissances européennes un enregistrement audio portant sur le meurtre du journaliste saoudien.
La première ministre britannique Theresa May va tenter aujourd'hui de convaincre ses ministres de surmonter leur division sur le Brexit pour approuver un projet d'accord conclu la veille avec les négociateurs européens et britanniques. L'aval du gouvernement est nécessaire pour permettre l'organisation d'un sommet exceptionnel avec les dirigeants européens afin de valider cet accord. Celui-ci devra ensuite être ratifié par les parlements britanniques et européens avant la date de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le 29 mars 2019. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Djibouti reçoit 20 millions de dollars de la Banque mondiale pour financer des projets d'aménagement urbain. Ces fonds devraient permettre à environ 100 000 Djiboutiens d'obtenir un meilleur accès aux services sociaux et à l'emploi. Cette aide soutiendra les actions déjà entreprises par le gouvernement en matière d'administration et de réglementation. Au Nigeria, la congestion et les retards dans les ports font perdre 19 milliards de dollars par an à l'économie. Selon le rapport de la Chambre de commerce et d'industrie de Lagos, cette situation serait surtout imputable aux activités illégales comme le racket et la corruption, à l'insécurité ou au retard des activités portuaires. En plus d'augmenter les coûts d'importation et de transport de plusieurs entreprises, ces activités coûteraient chaque année 5% du PIB du pays. Enfin, en Tanzanie, le président John Magufuli a ordonné à l'armée d'acheter toute la production nationale de noix de cajou de la saison en cours. Des négociants privés ont refusé de payer les agriculteurs au prix fixé par le gouvernement. Le mois dernier, l'exécutif a décidé de doubler le barème, le fixant à 3000 shillings tanzaniens par kilogramme. De nombreux producteurs affirmaient que le prix de 1500 shillings ne leur permettait pas de compenser les coûts de production. Les négociants, eux, ont refusé de s'aligner sur le nouveau prix.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Bertrand Traoré, concerné par le Football Leaks.
Oui, d'après des documents relayés par le journal L'Équipe, l'attaquant burkinabé de l'Olympique Lyonnais était mineur lorsqu'il a été recruté par Chelsea en 2010 contre 460 000 euros. Pour ce transfert, qualifié d'illégal par le service intégrité et conformité de la FIFA, cette structure demande que Chelsea soit privée de transfert pendant un mercato. Le club londonien risquerait jusqu'à 4 mercato d'interdiction de transfert pour des infractions portant sur 19 joueurs, dont 14 mineurs recrutés illégalement. Bertrand Traoré a été transféré à l'été 2017 à l'OL en provenance de Chelsea pour 10 millions d'euros.
Enquête ouverte aussi sur le recrutement de joueurs mineurs par Monaco.
La Ligue de football professionnel et la Fédération française de football vont enquêter sur les conditions de recrutement de deux joueurs mineurs par l'AS Monaco, mise en lumière par les révélations des Football Leaks. Dans le cadre de ces révélations, Mediapart a dévoilé que Monaco s'était notamment entendu avec des joueurs mineurs pour des primes à la signature non reconnues par les instances du football. Les noms des joueurs mineurs n'ont pas été divulgués par Mediapart.
Santiago Solari s'installe sur la durée au Real Madrid.
Madrid a confirmé hier la nomination de l'Argentin comme entraîneur après un intérim réussi de 2 semaines. Le technicien étant désormais lié avec le club merengue pour 2 saisons et demie, soit jusqu'en 2021. Une belle marque de confiance pour l'ancien entraîneur de la réserve qui a opéré un redressement spectaculaire de la trajectoire de l'équipe première avec 4 victoires en 4 matchs.
Gérard Martino désigné meilleur entraîneur en MLS.
L'entraîneur d'Atlanta, passé par le banc du FC Barcelone, a été désigné meilleur entraîneur du championnat nord-américain de football. Son club s'est qualifié pour la finale de la conférence Est. Pour une place en finale, Atlanta défiera la meilleure équipe de la saison régulière, les New York Red Bulls. L'Argentin en charge d'Atlanta depuis 2017 quittera son poste en fin de saison. On reste ici aux États-Unis pour parler du NBA. Avec vous, Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
Cleveland Cavaliers et Charlotte Hornets, 113 à 89. Houston Rockets et Denver Nuggets, 109 à 99.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, la volte-face de Félix Tshisekedi de l'UDPS et de Vital Kamerhe de l'UNC à la désignation de Martin Fayulu comme candidat unique de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre prochain continue de défrayer la chronique. D'abord, au micro d'Idriss Fall, le porte-parole du gouvernement Lambert Mende, qui réagit en tant que membre du Fonds commun pour le Congo.
Moi, je n'ai pas de commentaire particulier. Je dirais même que c'est de bonne guerre pour nous. Et il y a une seule chose qui m'intrigue, c'est cette culture du reniement, cette culture de la contestation pour contester, et qui me renvoie un peu à remettre en relief leur contestation de la machine à voter, qui pour nous n'est pas du tout justifiée, qui procède d'une sorte de culture politique de contester même ce qui n'est pas contestable, parce que ils ont été à Genève, ils ont été à 7 personnes, ils ont procédé à des consultations, ils ont voté des résolutions sans machine à voter, et 24 heures après, ils contestent. Alors finalement, est-ce que c'est la machine à voter qui est problématique, ou bien c'est leur culture politique tout simplement? Je dis que c'est une culture politique, et qu'il ne faut pas dramatiser outre mesure lorsqu'ils promettent de contester je ne sais quoi. Quoi qu'il soit fait dans ce pays, ça aboutira toujours par une contestation, puisque telle est leur ADN finalement.
Quand même, cette dispersion de l'opposition, on peut dire que ça arrange aussi le front commun pour un scrutin à un seul tour, non?
C'est pourquoi j'ai dit que je pourrais dire que c'est de bonne guerre. Sauf qu'on peut être intrigué par cette culture qui consiste à contester n'importe quoi pour le plaisir de contester.
Vous ne craignez pas qu'après les élections du 23 décembre, que la contestation aussi continue?
Mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourra faire qu'ils ne pourront pas contester? C'est ça la question que nous nous posons. Puisque s'ils peuvent contester comme ça leur propre signature, donnée 24 heures auparavant, qu'est-ce qu'ils ne contesteraient pas? Il y aura toujours contestation. Donc ce n'est pas à cause du fait que la machine à voter pose problème qu'ils contestent. C'est parce que c'est leur culture, c'est leur habitude, c'est leur ADN de contester qu'ils contestent. Donc ne dramatisons pas les contestations.
Le porte-parole gouvernemental, Lambert Mende, en tant que membre du Front commun pour le Congo. Maintenant, que pensent les Congolais eux-mêmes de l'unité éphémère des ténors de l'opposition autour d'une candidature unique, celle de Martin Fayulu? Quelques commentaires recueillis dans les rues de Kinshasa.
Pour moi, le retrait de la signature de Kamerhe et de Félix, d'abord c'est une traîtrise dans un accord qu'on a signé ensemble. Et puis c'est l'annonce d'un échec, puisque aujourd'hui l'opposition congolaise ne devrait gagner qu'à partir d'une unité commune. Et c'est ce qu'ils sont allés faire en Genève. Et puisque Kamerhe et Félix sont là pour leurs intérêts, ils n'étaient pas partis au nom de la nation, ils se sont retirés. Alors qu'ils ne savent jamais que leur retrait est un échec grave. Le pouvoir reste toujours du côté de la majorité. Depuis toujours, l'opposition va aux élections en ordre dispersé. Et c'est ce qui les a toujours causé des échecs. Et les leaders et la base, qui engage qui? À mon impression, ce serait les leaders qui engagent sa base. Et lorsqu'il parle, il devrait au préalable consulter sa base. On signe un accord le soir, demain on change de langage, mais ce n'est pas crédible. Pour moi, il donne un mauvais exemple à la jeunesse que nous sommes. Et ils ne peuvent pas représenter un État, parce qu'ils ne sont pas crédibles. Et on ne peut pas avoir des dirigeants qui ne sont pas crédibles à la tête de l'État d'un grand pays comme la République du Congo.
Moi, je me demande pourquoi les partisans des autres partis sont en train de contester. Est-ce que quand ils ont envoyé leurs leaders, allez vous entendre, ils leur ont demandé que non, allez pour que vous soyez vous candidat ou bien après le consensus. Ils devaient accepter les résultats du consensus. Non, ils doivent toujours s'entendre. Ce que les autres sont en train de manifester, c'est l'expression de la démocratie. Mais les leaders doivent descendre sur leur base et leur expliquer que nous, d'après notre accord, nous avons fait sortir un tel. Soutenons celui-là, c'est tout. Bon, les conséquences seront que la majorité, comme ils sont soudés, leur candidat va passer.
Ah, là, je ne sais pas. C'est leur opinion. Hein. Nous sommes à la démocratie. Chacun peut. Mais ce qui m'étonne, ils ont signé. Pourquoi maintenant de retirer? Donc, je regrette à mon frère, hein, tu sais qu'il dit, hein, Félix, avec ses comportements. Oui, on est dessus vraiment dans des comportements des opposants. Ils ne comprennent pas. Donc, ils visent seulement leurs intérêts. C'est regrettable vraiment, hein, avec ses comportements. Hein? Les gens souffrent vraiment, mon frère. Les gens souffrent.
Je dirais que si le retrait de la signature de M. Kamer et de M. Félix n'est pas un geste sérieux. Parce qu'ils ont eu un accord, eux tous, en signant pour qu'ils puissent faire sortir M. Martin Fayulu comme leur candidat unique. Mais en venant encore à retirer cette signature, ils prouvent bien qu'il y a une influence où les gens secrets qui sont en train de l'air motivés, d'une part, à faire déséquilibrer la personne qu'ils ont fait sortir comme leur candidat unique à la personne du monsieur Martin Fayulu.
En ce qui concerne l'opposition, en tout cas, ça prouve à suffisance qu'ils ne sont pas vraiment unis, parce que déjà parlons de ces deux messieurs que nous respectons en tant que des cadres, monsieur Tshisekedi et monsieur Kamere. Le fait de retirer leur signature, déjà, ça ne prouve pas que ils ont été ou ils ont eu à réfléchir suffisamment avant de faire, parce que souvent nous disons un homme sage s'engage en connaissance des causes. Et déjà, comment vous pouvez vous mettre ensemble, faire sortir une personne et puis un jour, 24 heures après, même pas un long moment, et puis vous retirez votre signature?
Un leader, c'est celui qui assume. Trump a dit que un leader, tout ce qu'il dit, même si les gens boycottent, même si les gens acceptent, tellement que c'est un leader, ça reste comme ça. Ça reste comme ça. Donc je peux dire que non, c'est que Kamer et le monsieur là, Fachi, ont pu faire, c'est pas vraiment des leaders. Pour moi, un leader, c'est ce qu'il fait, ce qu'il dit, c'est ce qui reste.
Raissa Girondin avec vous. Dans ce Washington Forum, retour sur le coup de théâtre survenu au sein de l'opposition en RDC après l'annonce d'un accord désignant Martin Fayulu comme candidat unique de l'opposition. Cet accord, signé à Genève, a volé en éclats en moins de 24 heures sous la pression des cadres et des militants de leur parti. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont annoncé leur retrait. Quelle analyse faire de ce revirement? Que vaut l'accord de Genève sans l'UDPS et l'UNC? Quelles sont les chances de l'opposition congolaise à la présidentielle de décembre? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel.
Du nouveau dans la lutte contre la corruption au Nigeria. Un centre visant à assurer la protection des témoins ainsi que la justice aux victimes de la corruption sera bientôt établi à cet effet. Ce centre, œuvre de la société civile, sera chargé de recenser les victimes de la corruption. Reportage de Gilbert Tamba, correspondant de VOA Afrique au Nigeria.
Le centre servira d'intermédiaire entre les Nigériens vivant en zone rurale ou même ceux qui vivent dans la capitale mais qui ne savent pas revendiquer leurs droits et les institutions de lutte contre la corruption au Nigeria. Tous les cas de corruption seront désormais reçus et enregistrés par ce centre pour des enquêtes et se chargera d'assurer la défense des personnes victimes de corruption. Awal Moussa Ibrahim Rafsanjani du CISLAC, centre de défense des droits humains, en est l'initiateur.
Si ce centre n'existait pas, beaucoup de Nigériens qui n'ont pas d'argent pour aller à la justice, beaucoup de Nigériens qui n'ont pas les moyens d'aller voir EFCC ou ICPC ou encore ceux qui ne savent tout simplement pas comment le faire, ils continueraient à être des victimes de la corruption ou des abus des droits humains. C'est pourquoi ce centre est pour les gens ordinaires qui ne peuvent pas défendre leurs droits ou qui sont victimes de corruption.
Il existe plusieurs agences gouvernementales de lutte contre la corruption au Nigeria, mais ces institutions ont encore du mal à lutter efficacement ou mettre fin à ces fléaux qui atteint des proportions inquiétantes dans ces grands pays de l'Afrique de l'Ouest. Elles sont souvent accusées d'être sélectives dans certains cas de corruption contre les cadres ou les individus inculpés, comme le pense Kola Wole, un activiste qui combat la corruption.
First is the issue around the institutions.
Tout d'abord, c'est un problème d'institutions. Nos institutions sont généralement faibles. Elles sont influencées par des poids lourds et donc si les intérêts dominent, vous ne pouvez pas combattre la corruption. Si vous avez un homme fort, mais qui est entouré d'autres hommes et que vous avez parmi eux des corrompus qui peuvent influencer l'homme fort, c'est le cas par exemple des institutions qui doivent enquêter, arrêter, juger et inculper.
Cette nouvelle structure se veut plus dynamique, mais va surtout défendre les sans-voix. Elle a déjà signé des accords de collaboration avec les autres agences en place. La police est un partenaire privilégié de ces centres. Abayomi Chokunle, commissaire assistant de la police nationale en charge de l'unité de lutte contre la corruption.
Je pense que le problème de la corruption au Nigeria, c'est quelque chose qui doit nous préoccuper tous. Pas seulement le gouvernement. Tout le monde est concerné par ce problème de corruption au Nigeria parce que, selon les informations que nous recevons, il y a de la corruption à tous les niveaux, en bas comme en haut.
Quatre années après son arrivée au pouvoir, le président Muhammadu Buhari a en effet connu très peu de succès dans sa lutte contre la corruption. Les milliards détournés n'ont pas été récupérés. Plus grave, les enquêtes piétinent aussi. Selon IFCC, la commission de lutte contre les délits financiers, plus de 700 dossiers de corruption se trouvent présentement devant la justice nigériane. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Au Bénin, le cinéma, comme dans la plupart des autres pays africains, est un secteur qui ne se porte pas bien. Le manque de formation et d'infrastructures adéquates, ainsi que l'absence d'une aide de l'État, constituent autant d'obstacles qui entravent le rayonnement du 7e art dans cette nation ouest-africaine. De Cotonou, notre correspondante Ginette Fleur a Dandé.
Au Bénin, l'état du cinéma n'est pas des plus reluisants. Plusieurs facteurs expliquent la situation précaire du 7e art. Même si le secteur n'est qu'à un état embryonnais, cela conserve tout de même son charme, selon Samson Adjaro, acteur et réalisateur.
C'est aussi un atout d'avoir un cinéma naissant, parce que ça permet à tous ceux-là qui ont envie de s'investir dans du vrai cinéma, au fil d'une dizaine d'années, de faire partie des pionniers.
L'avènement du numérique et la naissance de plusieurs chaînes de télévision ont précipité l'éclosion d'un nombre impressionnant de cinéastes, même si pour la plupart du temps les créations restent approximatives et ne font pas toujours le poids hors du territoire national. Claude Balogun, promoteur de Gangan Productions, une agence spécialisée dans la réalisation des documentaires et films, pense que malgré tout, les productions restent des diamants bruts à tailler.
Cela ne favorise pas la production de films de création. Nous avons beaucoup plus de films d'école produits par les étudiants de l'ISMA qui sortent, produits par des étudiants de l'Université nationale qui viennent en stage.
L'absence d'une véritable politique étatique serait entre autres les raisons qui expliquent l'état du cinéma, fait savoir Samuel Fagbidji, réalisateur. Pour lui, si l'état pouvait accompagner la volonté manifeste des jeunes, le cinéma serait plus représentatif.
Nous n'avons pas des financements adéquats et ça se ressent sur la qualité de nos produits qui sont d'une qualité approximative. Quelquefois, c'est nous-mêmes qui finançons nos projets et nous sommes bloqués quelquefois et ça fait qu'on ne tourne pas.
De Clap Ivoire au FESPACO en passant par le Festival Film d'Agadir, les jeunes semblent montrer leur volonté à donner un coup d'éclat au secteur cinématographique. Pour Modeste Rungedi, réalisateur de profession, la précipitation fait partie des raisons qui expliquent l'état du secteur.
En 2 mois, on fait un film, non? Il y a des scénarios qu'on écrit pendant 10 ans. Quand vous écrivez un scénario, c'est beaucoup de versions. Ici, le scénario n'est pas abouti, on commence déjà pas à chercher de l'argent pour ça. Et voilà pourquoi ils ne sont pas représentés sur le plan international.
Pour le fondé de l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel, les étudiants apprennent les principes de l'art, mais une fois sur le terrain, doivent faire preuve de talent et de géniosité. Marcelin Zanon.
Le cinéma est un art et tout art est fait de principes. Les principes s'enseignent dans une école. D'où nous avons créé l'école pour offrir à la jeunesse cette possibilité de se faire former afin de participer au développement de l'industrie cinématographique au Bénin.
L'autre aspect véritable boulé pour le cinéma béninois est l'absence d'une loi pour réglementer le secteur. Un coup d'existe certes, mais sa promulgation se fait attendre. Mais comment parler du développement du secteur cinématographique sans des salles de cinéma? Les quelques-unes qui existaient ont laissé leur place à tout sauf du cinéma. Mais pour Cornelia Gleller, réalisatrice tenant un blog, le secteur au Bénin a toutes ses chances.
J'ai espoir, je travaille et d'autres personnes travaillent et je sais que le cinéma béninois va briller.
Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.